Bonjour à tous. Aujourd'hui, 66-74 après Jésus-Christ, un des mythes fondateurs du sionisme, la guerre des Juifs et la chute de Massada.
Un rocher de grande circonférence, entouré de tous côtés de profonds précipices, capables de frapper l'épouvante les plus hardis. Au sommet, le grand prêtre Jonathan avait fait élever une citadelle qu'il appela Massada. Flavius Joseph.
Ans d'histoire. Sur la rive occidentale de la mer Morte, dans une des régions les plus sauvages du Proche-Orient, se dresse un plateau qui domine de 400 mètres le désert de Judée. Tombé dans l'oubli pendant plus de 18 siècles, le plateau de Massada est aujourd'hui visité par des milliers de touristes venus voir cette forteresse naturelle où en 74 après Jésus-Christ, plus de 900 juifs se sont donné la mort plutôt que de se rendre à la 10e légion romaine de Flavius Silva. C'était le dernier acte d'une guerre commencée 8 ans plus tôt, lorsqu'en 66 après Jésus-Christ, les juifs s'étaient révoltés contre les romains dont ils ne supportaient ni les impôts, ni l'autorité, ni surtout la religion.
Cet animal offert en sacrifice est né quand la lune se trouvait dans la plus favorable des 16 zones. Son foie ne présente aucune tache suspecte. Il n'y a pas de substance étrangère. Tous les présages sont favorables pour la campagne que vous allez entreprendre pour la plus grande gloire de Rome et de l'empereur qui régit la destinée de votre empire.
Aujourd'hui commence la tâche finale de la 10e légion en Judée. Avec ces pierres, nous paverons la voie du retour.
Richard Lebeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des religions anciennes du Proche-Orient. Alors nous allons parler avec vous d'un des moments les plus importants de l'histoire des Juifs, la chute de la citadelle de Massada, le suicide de ses défenseurs qui étaient les derniers Juifs à résister à l'occupation romaine. Alors en lisant l'Atlas des Hébreux que vous venez d'écrire aux éditions Autrement, j'étais surpris par le nombre de Juifs qui vivaient à cette époque dans l'Empire romain. Vous parlez de 1/10 de l'ensemble de la population romaine,
oui,
pas de l'Empire.
Oui, ce sont des évaluations sur un bassin méditerranéen qu'on évalue entre 60 et 89 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y aurait entre 6 et 8 millions d'habitants. Mmh. En Palestine même, d'après un certain nombre de calculs, on aurait 2 millions et demi d'habitants. Mmh. C'est un tas de surpopulation. On a oublié, on a toujours fait passer les Juifs pour des gens recroquevillés sur eux, alors qu'ils avaient donc une volonté, un prestige religieux extrêmement important.
Surtout à l'époque de Hérode, qui a été le dernier roi d'une Judée quasi indépendante. Il avait été mis en place quand même par les Romains, mais enfin elle avait, la Judée, une apparence d'autonomie, et Hérode a été un constructeur, un bâtisseur considérable. C'est lui qui a construit d'ailleurs reconstruit le temple.
Oui, alors en même temps, comme les sages du Talmud reconnaissent la gloire bâtisseuse d'Hérode, ils l'accusent aussi de construire pour les païens.
Oui.
Et en même temps, on peut prendre aussi l'exemple de Tibériade, où Hérode n'a pas reculé devant le fait de briser l'un des tabous les plus forts du judaïsme, construire une ville nouvelle, Tibériade, en honneur de Tibère, dans un cimetière.
Mmh.
Donc c'est une image, c'est vrai qu'on a une image un peu péjorative donnée par les évangiles.
Hein. C'est lui aussi, Hérode, il faut le rappeler, qui a fortifié Massada, qui était une forteresse déjà de son temps, c'est-à-dire bien avant la bataille dont nous avons parlé.
Oui, et justement, celle-là, c'est aussi toute l'ambiguïté du personnage. Hein. Certains parlent de palais à Massada, mais enfin le fondateur, donc le grand prêtre Jonathan, donc a appelé l'endroit Massada, qui veut dire forteresse ou refuge. Ça prouve aussi son état sa grande prudence vis-à-vis de l'opinion juive. Hein. Ils sont quand même très mal à l'aise.
Enfin, l'opinion des juifs, parce qu'en réalité, on se rend compte aussi en lisant cet atlas, Richard Lebeau, que les juifs sont sur le plan religieux extrêmement divisés. C'est d'ailleurs une des raisons aussi de la facilité avec laquelle les Romains vont les soumettre. Hein. Il y a les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, c'est quoi toutes ces sectes en fait.
Oui, enfin, secte, moi je dirais courant,
oui.
Parce qu'on pense trop à Scientologie ou enfin sans faire de...
Non, c'était pas plus
de
pas,
non, non, mais justement, je crois que c'est au sens de courant d'école. Hein. Mmh. On aurait vraiment deux courants majoritaires au sein du... Enfin, dominants, pardon. Les Sadducéens sont des gens qui sont proches du temple de Jérusalem. En gros, c'est le clergé, avec... Pour eux, le temps s'est arrêté au Deutéronome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection, peut-être pas de survie, la Torah est écrite, point. Et face à eux, des pharisiens, qui pour eux, justement, pensent qu'il y a l'existence d'une Torah orale qui se transmet donc par la tradition, qui permet des ajustements avec la rigueur du texte écrit. Et puis eux, grande nouveauté, sont les premiers dans le monde à affirmer qu'il y a une résurrection. Donc le corps, du corps et de l'âme. Et ces gens, donc eux, ne se moquent pas du temple, hein, mais regardent pas vraiment vers le temple, regardent vers les synagogues. Ce sont ceux qui se sont fait un devoir d'apprendre à lire, à écrire au peuple. C'est quand même, c'est vrai que pour étudier la Bible, il vaut mieux savoir lire et écrire. Et vous aurez un certain nombre de courants, enfin, vous avez des baptistes, ceux des gens qui aident. Donc, je pense à Jean-Baptiste, ou des gens
qui attendent le Messie. Oui, à ce moment-là, il faut rappeler, le christianisme vient à peine de commencer.
Tout à fait.
On distingue pas trop les deux religions.
Le christianisme, il est un peu, justement, à cheval, un peu sur un certain nombre de courants. Et je pense aux deux autres courants cités par Flavius Joseph, hein, dont on a déjà entendu un certain nombre d'extraits. Je pense aux Esséniens, et puis surtout aux Zélotes. Et ces zélotes qui commencent vraiment, enfin la guerre juive, souvent la fait passer à 66, mais un Galiléen, Judas de Galilée, commence à se révolter, hein, donc en l'an 6 en Galilée,
pour contre. C'est l'année où la Judée.
La Judée justement, en gros, le pouvoir avant en Rome, c'était plutôt un pouvoir fantomatique, c'est une prise directe.
En tout cas, bon, quelques années, 60 ans après l'annexion par Rome, hein, qui place des procurateurs, des espèces de gouverneurs, dont les excès vont contribuer à provoquer la révolte. En 66, justement, cette révolte se déclenche. Il y a un seul témoin, un seul chroniqueur qui a raconté cette histoire de cette guerre des Juifs, un seul chroniqueur de l'époque, qui s'appelait Flavius Joseph, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, alors ces textes sont tirés donc de la guerre des Juifs, écrit par un personnage étonnant et assez ambigu, Flavius Joseph, un juif, donc ancien commandant même de l'armée juive, qui par la suite a été fait prisonnier et passé du côté de l'ennemi, du côté des Romains. Alors les causes de la guerre entre juifs et romains, telles qu'il les présente, sont multiples. D'abord, les provocations de l'armée romaine à l'égard de la religion juive se multiplient. Par exemple, écrit Flavius Joseph, « Ce jour-là, la fête des Azimes avait amené un grand concours de peuple à Jérusalem, et la cohorte romaine avait pris position sur le portique du temple. » Un des soldats retroussa sa tenue, puis s'étant penché dans une posture indécente, fit voir son derrière et émit un bruit en rapport avec sa position. Rendue furieuse par cette provocation, la foule entière, avec des clameurs hostiles, réclama le châtiment du soldat. Un peu plus tard, poursuit Flavius Joseph, un soldat trouvant dans un village un livre contenant la Sainte Loi, le déchira et le mit au feu. Et le procurateur lui-même, hein, représentant du pouvoir romain, Florus, qui ne songe lui qu'à s'enrichir, multiplie les provocations. Un jour, Florus envoya prendre 17 talents dans le trésor sacré du temple. Immédiatement, le peuple entra en effervescence. Alors, les Juifs sont poussés à la révolte, notamment par les Sicaires, une sorte de groupement terroriste, hein, entre guillemets. Les Sicaires assassinaient en plein jour et au cœur de la ville. Ils opéraient surtout pendant les fêtes, mêlés à la foule, et portant, dissimulés sous leurs vêtements, un petit glaive dont ils frappaient leurs ennemis.
La Sica, justement, d'où leur nom.
Voilà. Puis quand leurs victimes s'écroulaient, leurs meurtriers joignaient leurs cris d'horreur à ceux de la foule, et ainsi ils n'étaient jamais pris. En d'autres bandes se formèrent, écrit Flavius Joseph, et poussèrent les gens à la révolte, promettant la mort à ceux qui obéiraient aux Romains. C'était une guerre qui se rallumait chaque jour. En face à cette agitation, la répression des Romains est terrible. Les gens essayaient de fuir par les ruelles, et les soldats égorgeaient ceux qu'ils attrapaient. Ils arrêtèrent beaucoup de modérés que Florus fit fouetter et crucifier. Une guerre qui aboutira plus tard en 70 au siège de Jérusalem par Titus et à l'incendie du temple. Un soldat, mu par une sorte d'impulsion surnaturelle, arracha un brandon aux boiseries en feu et jeta ce brandon par une petite porte d'or qui donnait accès aux habitations entourant le sanctuaire. Les flammes jaillirent et provoquèrent chez les Juifs une clameur digne de la catastrophe. Ils s'élancèrent à la rescousse sans souci d'épargner leur vie. Enfants, vieillards, laïcs, prêtres étaient abattus indistinctement. Sur une si grande foule, il n'y eut même pas de survivants.
La destruction du temple en 70 par Titus est un moment considérable dans l'histoire des Juifs. C'est d'ailleurs devant les restes de ce temple que vont se recueillir aujourd'hui les Juifs à Jérusalem.
Moi, je dirais que c'est peut-être aussi presque un moment fondateur.
Oui.
Enfin, peut-être un peu par provocation. Mais on peut se poser la question, c'est si sans incendie du temple, si le judaïsme ne serait pas encore, n'existerait pas encore aujourd'hui, car les seuls qui réchappent à cette catastrophe sont les pharisiens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc eux avaient déjà remplacé la prière par le sacrifice, se tournaient beaucoup plus le cœur vers les synagogues que vers le temple.
En tout cas, après la destruction de Jérusalem et du temple, la Judée est donc soumise, ses forteresses tombent les unes après les autres, sauf la citadelle de Massada, au pied de laquelle en 72, les 70 000 hommes de la 10e légion de Marius Silva arrivent.
Juifs de Massada, vous avez le salut de votre empereur. Je suis venu vous faire part du dernier mot d'ordre de Vespasien. Il est temps de vous rendre. L'empereur, dans sa clémence, vous laisse la vie et la liberté. C'est vraiment la paix qu'il désire et il la fera. D'ailleurs, les autres juifs ne demandent que cela. Comment s'appelle le chef déjà ?
Éléazar.
Le tambour que voici battra une lente cadence, 20 coups d'avertissement. Alors j'attends de vous un signe, au plus tard au 20e.
C'était l'extrait d'un film de Boris Sagal, Massada. Massada qui était une forteresse absolument incroyable, une forteresse naturelle. On pense au Vercors un peu, hein, la résistance française pendant la guerre. C'était vraiment imprenable, Richard.
Oui, c'était imprenable. Et justement, je crois que les légions romaines tentent un peu de psychologie en y arrivant face à cette forteresse, ce nid d'aigle.
400 mètres.
Des remparts naturels, aucun accès. Mais cette action psychologique de dire que, de les appeler, leur parler de l'empereur, alors que la forteresse est occupée par des zélotes, hein. Ces zélotes nous reconnaissent, sont les premiers à le dire au début de notre siècle, hein, vers l'an 6, qu'ils n'ont qu'un maître, c'est Dieu. Mmh. Donc déjà, leur rappeler leur devoir vis-à-vis de l'empereur, c'est un peu de la provocation. Mais début du siège, ceux qui maîtrisent beaucoup mieux le rapport de force, ce sont les assiégés.
Oui, parce que vous rappelez aussi, une historienne de l'histoire de Massada, qui s'appelle Mireille Adast-Lebel, rappelle qu'il y avait des problèmes considérables. Nous sommes dans une des régions les plus désertiques du monde. Il y avait un problème d'eau, et curieusement, on a l'impression que les assiégés dans leur forteresse à 400 mètres d'altitude se portent mieux qu'en bas les Romains qui souffrent de la soif.
Imaginez, on évalue le nombre de légionnaires entre 10 000 et 15 000. Hein. Rappelons quand même que dans la forteresse, ils étaient 967, d'après Flavius Joseph. Et à partir de ces chiffres, il faut 20 000 litres d'eau par jour. C'est énorme. Donc il faut des norias de prisonniers juifs obligés d'amener de l'eau pour abreuver les légionnaires, et en même temps donc pour mener le siège contre leurs frères. Enfin, c'est alors que dans la forteresse, il y a des citernes qui ont des capacités de retenue d'eau extrêmement importantes, et en plus on peut y manger. On n'y meurt pas de soif.
Quand il a construit, je crois, quand il avait fait fortifier Massada, Hérode avait prévu d'ailleurs un très long siège, donc il y avait des réserves considérables.
Oui, il y a 5 citernes énormes. Il y avait en même temps aussi, donc il y a 2 wadis, donc il y avait un aqueduc qui permettait de remplir ces citernes. Et on se rend difficilement compte, mais on sait je crois que c'est un témoignage de Félix Joseph, c'est le seul témoin, mais au moins c'est le seul qui nous parle de Massada, comme si on y était.
Autrement, on ne saurait même pas que ça existait.
Effectivement, personne n'aurait parlé, hein, parce que je pense que Massada, on oublie de dire, mais ça n'a pas l'importance de Jérusalem, et même au niveau économique, c'est complètement dehors des routes. Félix Joseph nous dit que les stocks de céréales, d'huile, et d'autres produits stockés par Hérode étaient encore consommables. Mmh. Donc près de 60 ans après, vous rendez compte, hein.
C'est la raison pour laquelle donc pendant plusieurs mois, eh bien les défenseurs de Masada vont résister au siège des Romains et aux conditions que justement le Romain Flavius Silva veut imposer au chef des défenseurs de Masada, Éléazar.
Votre politique, une démonstration de puissance, un drapeau romain au sommet de Masada, son chef amené à Rome, mis en vie, voire livrer une forteresse qui depuis un siècle et demi qu'elle a été édifiée n'a jamais été conquise. Ce n'est qu'une question de temps, tu le sais très bien, tu es un soldat comme moi, tête de mule. Prends au moins conscience de ceci, tu es assiégé et nous sommes à 5-1. Il apparaît que nous avons un allié doté d'un formidable pouvoir. Mais qu'est-ce que tu racontes, depuis quand as-tu un allié?
C'est celui-là même que les Juifs ont depuis toujours. Il y a deux choses que Géramel l'Essénien croit fermement. Il est convaincu de l'existence d'un dieu vivant et de l'implacable nécessité de vous livrer une lutte à mort pour la possession de ce bas-monde.
Quand nous aurons pris votre Masada, tu seras le premier à implorer mon pardon.
C'était une rencontre imaginaire entre le chef romain Flavius Silva et le défenseur de Masada, Éléazar, hein, tiré d'un film dont j'ai parlé. Alors les Romains vont mettre des mois à prendre Masada, et cela avec une construction absolument invraisemblable. Ils vont utiliser ce qu'on appelle le génie dans l'armée, c'est-à-dire qu'ils vont construire une rampe pour grimper, pour se hisser à la hauteur des défenseurs de Masada, Richard Lebon.
Oui, et puis surtout une tour au-dessus sur cette rampe, parce que le seul moyen de vaincre la citadelle, c'est de faire appel au génie militaire, au rouleau compresseur de la légion romaine. Et en même temps, tout à l'heure, ce qu'on vient d'entendre, hein, on voit bien pourquoi ils veulent pas se rendre. Je crois qu'il y a, premièrement, ils connaissent les suites de la prise de Jérusalem.
Oui, on avait promis aux habitants de Jérusalem la vie sauve, et ils l'ont pas eu.
Et ouais. Ça s'est fait par des routes pavées, jalonnées de crucifiés, donc ils savent ce qui leur attendent. Et en même temps aussi d'être, la grande différence entre un Romain qui est un pragmatique, d'ailleurs c'est le pragmatisme qui va faire en sorte qu'effectivement Masada tombera, mais en même temps les Juifs et les Zélotes ont un sens de l'histoire, ils mettent Dieu
avec eux,
ouais. Et si ils ont Dieu contre eux, parce que pourquoi, peut-être qu'ils ont fauté, autant mourir, c'est une sanction divine.
Mais ça, on y reviendra. Mais en attendant, cette espèce de construction, c'est absolument hallucinant. Quand on voit des photos de Masada, ou quand on voit Masada, si on s'y rend, c'est quand même immense, 400 mètres de haut, et on construit une rampe, donc, pour attaquer la forteresse.
Oui, et de cette façon-là, après, donc, on va pouvoir, donc, une fois qu'on a, on devient, c'est remettre, ça, c'est le génie militaire romain qui utilise une petite particularité du site, c'est qu'il y a une petite colline, hein. Donc ils vont construire sur quelque chose qui a 25 mètres. Rappelons quand même que les remparts, eux, ont 400 mètres, hein. Construire une immense rampe avec une tour qui va leur permettre après, donc, de défoncer à coups de bélier et d'enflammer, Masada, qui était quelque chose, des remparts qui font presque 3 kilomètres de long. Enfin, c'est vraiment un idée. En plus, ce qu'on imagine mal, c'est qu'au départ, c'est un palais fortifié qui est devenu une forteresse, hein, parce que les Zélotes sont là depuis 66, hein, ils ont même avant, donc ils ont eu le temps de transformer complètement le site, de construire un deuxième rempart, ils se sentent presque en sécurité,
hein. Et c'est au moment où les Romains sont sur le point de démolir les murailles de Masada que la veille au soir, donc Éléazar demande à tous les habitants de la citadelle de se suicider.
Vous pouvez choisir de vous battre demain matin. Ils vous tueront. Nous ferons des esclaves de vous. Vous pouvez vous cacher des Romains, mais ils vous trouveront. Vous pouvez enfin faire choix de les frustrer de leur victoire en vous supprimant. Et là, ces Romains se souviendront de vous. Tout à l'heure, dans le palais, nous avons tiré au sort. Il est bien évident que parmi les Zélotes, il y a des hommes qui en savent plus sur la manière de tuer que la morale ne le tolère. Aussi, 10 d'entre eux sont-ils prêts à aider tous ceux qui en éprouveront le besoin.
D'abord, je vais prier. Ensuite, tu m'aideras.
Et c'est ainsi donc que les 967, je crois, défenseurs de Masada, aussi bien les hommes, les militaires, que les femmes, que les enfants, que les vieillards, vont se suicider et que l'armée romaine va rentrer, va se retrouver devant... Je crois qu'il y avait seulement deux survivants, raconte Félix Joseph.
Il y en aurait peut-être plus, d'après les... ça serait, je crois, une femme et cinq enfants.
Oui.
Et d'après les fouilles menées par Yigal Yadin, qui est quand même l'inventeur au sens archéologique du terme, de Masada, on se pose la question de retrouver donc des corps, mais ce qui est effrayant, c'est que le texte, donc vous venez de lire, hein, qui est donc le fait de Joseph, est confirmé par l'archéologie.
Mmh.
Alors c'est pas tout à fait un suicide collectif. Il y a un assassinat entre guillemets et un suicide. Quand je dis un assassinat, j'aurais plutôt un holocauste. N'oublions pas que, comme la Passion du Christ, ça se fait le jour de Pâques. Donc on l'immole. Enfin, il y a un texte juif qui parle que femmes, vieillards et enfants sont portés en holocauste à Yahvé.
Parce qu'en principe, la religion juive, comme la plupart des religions, interdit le suicide. Je crois même que le cadavre d'un suicidé devait être laissé sans sépulture jusqu'au coucher du soleil.
Oui, tout à fait. Là, c'est pas ça. On voit bien, d'ailleurs, quand même, c'est toute l'ambiguïté, c'est que les exemples que cite Flavius Joseph pour monter un peu que prend Éléazar Ben Yaïr, donc le chef, le défenseur de la garnison, il les trouve chez des Indiens.
S'immolés
par le feu.
Oui, les Indiens d'Inde. Ce qui est étonnant quand même, Richard Lebeau, c'est que cette histoire, on ne la connaîtrait absolument pas sans les textes de Flavius Joseph. Et après la chute de Masada, donc la Judée est soumise, il y aura un autre soulèvement ensuite, un siècle plus tard, mais elle est soumise. Et le site de Masada sera d'abord occupé pendant, je crois, une quarantaine d'années par une garnison romaine, et puis plus tard, ensuite, par des moines byzantins, des moines chrétiens. Donc il y a même une église, je crois, au sommet
de
baptistère. Et c'est totalement oublié jusqu'au 19e siècle. Personne ne pense plus, ne visite plus, ne voit plus, ne se promène plus sur la forteresse de Masada.
Non, c'est pas très étonnant. Hein. C'est en fin de compte, Masada, c'est aussi l'échec de la révolte.
La résistance juive.
Hein. C'est pas d'ailleurs si on voit ceux qui parlent, c'est soit les chrétiens qui en parlaient un petit peu avant des événements, c'est le symbole là aussi de après la chute du temple, du triomphe du christianisme et de la sanction divine pour les juifs. Donc, et surtout, les Juifs vont se reconstruire. Les descendants des pharisiens, enfin, toute cette lignée de grands rabbins, je pense à Gamaliel et les autres.
Ils préfèrent oublier Masada, c'est ça?
Ils préfèrent oublier Masada, puis même Masada, on n'en parlera plus. Et en revanche, n'oublions pas que Masada veut dire refuge.
Mmh.
Et c'est les premiers sionistes au 19e siècle, puis surtout au tournant du 19e et du 20e, grâce à le poème de Masada, écrit par Lamdan, hein, Isaac Lamdan, qui va être écrit entre les années 20 et 30, sur place, hein, je veux dire, pas loin de, en ce qui est aujourd'hui Israël. Et, il fait intervenir, quand il écrit son poème, en gros, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui en tant que juif face au pogrom, face à ci, face à ça? Faut se protéger. Et on retombe sur Masada, ce refuge.
Qui est devenu un mythe fondateur,
oui,
du sionisme à ce moment-là.
Avec ce dernier vers, enfin, cette dernière phrase, plus jamais Masada ne tombera.
Mais je crois justement que ça a servi pendant des années. On retrouvait cette phrase, plus jamais Masada ne tombera, dans le serment prêté encore au jour, enfin, qui a été prêté pendant longtemps par les unités blindées israéliennes.
Oui.
Et on dit que Masada, au fond, c'est un peu ce que a vécu ou ce qu'ont ressenti pendant longtemps les habitants d'Israël. C'est un peu, au fond, une mentalité d'assiégé.
Tout à fait. Non, mais je crois que justement, c'est ce mythe qui se construit en gros, enfin, au début du XXe siècle. Et il va perdurer jusqu'en les années 67. Hein. Je prends pas cette date au hasard. Vous savez très bien que c'est la guerre des six jours et surtout la reconquête de Jérusalem. Et puis, avec conquête du Sinaï, de la Cisjordanie et du Golan, où Israël ne se sent plus assiégé. Et deuxièmement, en même temps, les temps ont changé aussi. On commence à se poser si vraiment le suicide, c'est si bien que ça.
Mmh.
On se pose des questions sur cet acte. Est-ce qu'ils ont eu peur d'affronter les Romains? Enfin bon, ça laisse un malaise.
Parce que l'archéologie aussi, il n'y a pas que le poème de Lamdan, il y a aussi l'archéologie qui est venue au secours, au fond, en quelque sorte, du sionisme, jusqu'en 67, comme vous le dites. Et vous me disiez avant que l'émission commence que, d'ailleurs, la plupart des grands généraux israéliens étaient tous des archéologues.
Oui, ou tout du moins, enfin, peut-être tout, j'exagère un peu, mais énormément, beaucoup, et oui. Surtout, faut quand même citer, donc on citait tout à l'heure Galiadine, hein, qui est vraiment le monsieur de l'archéologie de Masada. N'oublions pas Dayan, hein, Moshe Dayan, et puis bon, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Isaac Rabin, hein, et ces gens-là sont venus, faisaient de l'archéologie pour trouver une réponse à la question, en gros, comment on peut se protéger. Et Masada a cette particularité-là d'être. On a toujours présenté un peu l'antithèse du ghetto de Varsovie. Hein. Ce ne sont pas des agneaux,
oui,
là.
Oui. Et à quoi ça ressemble, Masada? Je crois que vous visitez souvent.
Il faut y aller, parce que c'est extraordinaire. Vous savez, donc, c'est un piton rocheux qui domine, on l'a dit, de 400 mètres, dans un paysage, mais d'une rare désolation, hein, avec dominé en même temps par cette espèce de lac qui est lac immobile, lourd, qui est la mer morte. C'est vraiment c'est saisissant. Hein. C'est vraiment un espace sans vie, et on est vraiment écrasé par ce piton rocheux. Alors aujourd'hui, il y a un ascenseur, mais avant, quand on montait comme les Romains par le chemin du serpent, on comprenait la difficulté de prendre Masada.
Merci Richard Lebeau. Je rappelle que vous êtes donc co-auteur avec Claire Levasseur de l'Atlas des Hébreux, publié chez Autrement, également l'auteur d'une histoire des Hébreux publiée chez Talendier. À lire également Masada de Mireille Hadas-Lebel, un livre formidable qui a été publié il y a longtemps déjà chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits du film Masada de Boris Sagal avec Peter O'Toole, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry et Étienne Michka. Documentation Virginie Bloch-Léné et Claire Tesser. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, à l'occasion de la semaine du goût, un des plus grands noms de l'histoire de la gastronomie va...